Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.
La reine Elisabeth II, décédée hier à l'âge de 96 ans. Le Monde s'est associé jeudi au deuil des Britanniques après la mort de leur monarque. Une reine de cœur, la dignité, le sens du devoir inaltérable. Des mots que l'on retrouve dans la pluie d'hommages unanimes suscités par le décès d'Elisabeth II à travers le monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du vendredi 9 septembre 2022, consacrée en grande partie à la disparition d'Elisabeth II. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère. Le nouveau roi Charles III doit s'adresser ce vendredi à ses sujets en deuil et après la mort d'Elisabeth II. Il doit aussi s'entretenir avec la première ministre Liz Truss, dont l'intronisation mardi par Elisabeth II a constitué le dernier acte constitutionnel d'une vie dédiée jusqu'au bout à son rôle. C'est hier que la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. Dans sa résidence en Écosse, monarque qui a servi le plus longtemps au monde et l'a fêté cette année ses 70 ans sur le trône. Henry Ridgewell revient sur la vie de l'un des chefs d'État les plus respectés au monde. Le récit est de Timothée Donangmaï.
La reine Elisabeth II était le seul monarque que beaucoup de Britanniques vivant aujourd'hui aient jamais connu. Le symbole de sa nation, de son empire et du Commonwealth. Elle a personnifié la force et le caractère britannique bien avant de savoir qu'elle serait reine. En 1947, le jour de son 21e anniversaire, la reine Elisabeth a prononcé un discours télévisé lors de sa première tournée à l'étranger, c'était en Afrique du Sud.
Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.
La même année, elle épouse le prince Philippe, né en Grèce. À 25 ans, Elisabeth monte sur le trône après la mort de son père George VI. Elle assistera à la profonde transformation de la société et de la technologie au cours de son règne de plus de 7 décennies, une période au cours de laquelle elle a mis en garde contre les dangers de jeter des idéaux sans âge en embrassant les avantages des nouvelles inventions. La reine Elisabeth a envoyé son premier tweet en 2014. Monarque ayant régné le plus longtemps au monde, il y a peu de records qu'elle n'a pas battus. L'auteur et analyste royal Richard Fitzwilliams.
En tant que chef du Commonwealth, la reine a des liens avec le passé. Il s'agit parfois d'un passé qu'il est difficile d'accepter, car on pense à l'Empire, à l'exploitation coloniale, par exemple. Mais en ce qui concerne la reine, on pense à son dévouement à l'organisation.
La reine Elisabeth a représenté la Grande-Bretagne en se liant d'amitié avec ceux qui partageaient les valeurs de liberté, d'égalité et de démocratie, et, avec dignité, elle a confronté ceux qui ne les partageaient pas. La reine n'était pas à l'abri des critiques dans son propre pays. Certains la considéraient comme le symbole d'une institution n'ayant plus sa place dans un monde postmoderne, néolibéral et démocratique, et comme un fardeau pour le contribuable britannique. La mort de la populaire princesse Diana a été l'occasion pour ses détracteurs de l'accuser d'être froide et lente à réagir. Le mariage de son petit-fils, le prince William, avec Kate Middleton, a apporté un glamour jeune à l'ancienne institution. Lorsque le prince Harry a épousé l'actrice américaine Meghan Markle, Elisabeth était à la tête d'une famille qui semblait évoluer avec son temps, populaire, diverse et mondiale. Le décès du prince Philippe, mari d'Elisabeth, en 2021, a laissé une image durable. une reine seule en deuil alors que la pandémie de coronavirus balayait son pays. En septembre, elle a nommé le 15e premier ministre de son règne, son dernier grand engagement public. La reine Elisabeth reste un géant dans l'histoire de l'une des grandes nations de la planète, un pont entre le passé colonial de la Grande-Bretagne et son avenir en tant qu'acteur mondial dans un monde très différent de celui où elle est née. La tradition royale britannique dont Elisabeth était l'intendante est désormais entre les mains de ses héritiers alors que Charles se prépare à monter sur le trône. La Grande-Bretagne dont ils héritent est radicalement différente en termes de démographie, de culture et d'économie. Dans un monde globalisé et pluraliste, leur tâche de projeter une image de grandeur n'en est pas moins compliquée.
Merci Tim. C'est au Kenya qu'Elisabeth se trouvait en février 1952, quand son père George VI est décédé et qu'elle a accédé au trône, comme l'a rappelé Eric Manirakiza à Mohamed Mboj, professeur d'histoire à Manhattanville College de New York.
C'est ça, elle était en vacances donc avec son mari et je ne suis pas sûr que c'était son voyage de noces, mais en tout cas, elle était en vacances. D'ailleurs, même, il y a eu des anecdotes qui disaient qu'elle était dans un campement où il y avait l'habitation au sommet de l'arbre. Donc, ce n'était même pas ce qu'on peut appeler un bungalow ordinaire, mais quelque chose de spécial qui était construit au sommet d'un arbre, peut-être pour imiter l'idée que les Britanniques se faisaient de la jungle avec les films de Tarzan et autres. Et c'est là, effectivement, qu'on l'a réveillé au matin pour lui dire que son père était mort et que, étant donc le successeur de son père qui n'avait pas d'enfant masculin, donc elle devenait la reine. Donc c'est en Afrique qu'elle a bien reçu la nouvelle. Et après son couronnement, je crois que c'est en Afrique du Sud qu'elle a effectué l'une de ses plus grandes sorties, l'une de ses plus grandes visites officielles que vous avez mentionnées ici il y a quelques instants.
Mohamed Mboj, les grands moments du règne d'Elisabeth II, que peut-on retenir pour les Africains principalement?
Évidemment, c'est la reine qui a présidé à la décolonisation, donc à la séparation politique, au moins symbolique, sinon radicale, entre l'Empire britannique en Afrique et le pouvoir britannique. Donc c'est sous son égide et sous sa direction. Et en même temps aussi, c'est sous son règne, disons, qu'il y a une sorte de réconciliation après coup entre l'Afrique et la couronne, le gouvernement anglais, en particulier à travers l'institution du Commonwealth, qui est en train de redonner, de regagner de la vigueur en quelque sorte. Alors, on peut dire que, évidemment, il y a une sorte de relation ambiguë, que l'indépendance des États africains s'est faite contre la Grande-Bretagne et dans ce cas-ci contre donc un système royal monarchique, même si c'est dominé par le Parlement britannique. Le symbolisme qui consistait à dire que l'Afrique allait se gouverner elle-même et non plus par une femme blanche qui n'avait aucune idée et aucune connaissance et qui n'avait rien de particulier qui la lie à l'Afrique. Le symbolisme dans les années 60 était très fort et effectivement a marqué la marche à l'indépendance des pays africains. Par la suite, évidemment, les choses ne se sont pas toujours passées de la manière dont peut-être à l'époque on pensait qu'elles se seraient passées. Et donc il y a une sorte de rabibochage, si on peut parler ainsi, entre le Royaume-Uni et les Africains. Et là, la reine a été très gracieuse. Elle a visité plusieurs pays africains. Elle a envoyé ses enfants. Elle a envoyé ses cousines et ses cousins. Et donc, elle a tenu à faire en sorte que par exemple, la famille royale soit présente à la célébration de l'indépendance de chacun des États africains anciennement sous la dépendance britannique, ce qui était une sorte de geste de classe pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune de son côté.
Mohamed Mboj, professeur d'histoire à Manhattanville College de New York. Dans sa toute longue vie, Elisabeth II a eu rarement l'occasion de partager le quotidien de ses sujets, comme marcher dans la rue, prendre le métro ou simplement aller dans un pub, un des endroits favoris des Britanniques, Yacouba Ouédraogo.
Le 8 mai 1945, c'est avec une grande joie que les Londoniens accueillent l'annonce de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'allégresse, la princesse Elisabeth, 19 ans à l'époque, se mêle à la foule avec sa sœur Margaret. Nous avons marché pendant des kilomètres à travers les rues. Je me souviens des rangées d'inconnus qui se tenaient les bras et nous étions balayés par des vagues de bonheur, a-t-elle raconté dans une très rare interview à la BBC en 1985. Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée d'être reconnus, a-t-elle ajouté. Puis le 7 mars 1969, la reine reprend le métro pour la deuxième fois de sa vie lors de l'inauguration d'un nouveau tronçon du réseau londonien. Elisabeth II, qui avait pris le métro une première fois en 1939, a accompli un court trajet dans la cabine de pilotage aux côtés du conducteur qui a ainsi connu son jour de gloire après 34 années de service. Après la mort de la princesse Diana en 1997, Buckingham Palace a tenté de rapprocher la reine de ses sujets. Elisabeth II fait ses apparitions dans un McDonald's, un magasin d'ustensiles de cuisine et dans une pub. Les Britanniques l'ont adorée au fil des ans, comme en témoigne la forte affluence devant le palais de Buckingham.
Aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale consacrée en grande partie à la mort hier, à l'âge de 96 ans, de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni. On continue d'enregistrer des réactions au décès de la reine, chez elle comme ailleurs dans le monde. Commençons par le Royaume-Uni, c'est la tristesse et un deuil national est observé jusqu'à ses funérailles dans une dizaine de jours. Abdulrahman Dia a joint à Londres le journaliste Mamadou Moussaba.
Le Royaume-Uni est véritablement en deuil. Les drapeaux sont en berne à Buckingham Palace où s'est massée une foule de sympathisants malgré... les fortes précipitations de ces dernières heures à Londres. La reine est décédée à Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. L'émotion est perceptible sur les visages. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu s'empêcher de verser des larmes éclatant en sanglots. D'autres déposent des gerbes de fleurs devant le palais. Certains gardent un silence qui en dit long sur leurs sentiments. Pratiquement toutes les chaînes de télévision ont interrompu leur programme et diffusent des pages spéciales consacrées à l'événement ici à Londres.
Alors, est-ce que Buckingham Palace a révélé des détails sur les funérailles?
Pas beaucoup de détails pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des funérailles à la dimension de son rang. La reine est décédée en Écosse, sur place. Il y aura déjà quelques cérémonies traditionnelles avant le retour de la dépouille à Buckingham Palace. Des chefs d'État, des dignitaires de nombreux pays viendront assister à l'événement pendant les 9 jours de deuil qui sont décrétés dans le pays.
Alors, le prince Charles devient le roi Charles III. On le dit pas aussi charismatique que sa mère. Parlez-nous un peu de lui et un peu ce qu'il attend.
Oui, après la mort de la reine, bien évidemment, Charles va accéder au trône. C'est une chose normale dans l'ordre de succession. Il a été préparé à cette tâche. Déjà, il a fait de nombreux déplacements et a représenté la reine à plusieurs événements. Il n'existe pas d'informations sur la date précise du couronnement, ni sur l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fils aîné de la reine. Il est né en 1948. Il a fait son service militaire au sein de la Royal Navy et est passionné des questions liées à l'environnement. De son premier mariage est né le prince Harry, mais il épousera après le décès de la princesse Diana, qui était très populaire, Camilla Parker Bowles. Et nul doute, c'est une lourde tâche qui l'attend.
Des deux enfants du roi Charles III, William et Harry, c'est William l'aîné qui est le nouveau prince héritier. C'était Mamadou Moussaba, journaliste basé à Londres. Mohamedou Humfa a lui joint Samba Sen, un habitant d'Edimbourg, en Écosse, où Elisabeth II est décédée.
D'abord, il y a la tristesse totale. Tout le monde est choqué d'après l'annonce que ses enfants allaient les rejoindre à Balmoral. Beaucoup de gens se sont inquiétés, quoi, du coup. On a vu aussi les journalistes se présenter avec des cravates noires. Il y avait le pressentiment que peut-être la fin approchait. Il y a le silence total à Edinburgh plus particulièrement. En plus de la pluie, il y a beaucoup de gens qui se sont dirigés vers le palais, là où elle loge quand elle vient à Edinburgh pour ses vacances. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein.
La reine était très âgée et elle n'apparaissait plus beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'il y a eu des signes ces derniers temps que son décès pourrait survenir à tout moment? Ou alors est-ce la surprise totale selon vous?
Ouais, pour certains, c'était une surprise totale. Pour les gens comme moi, parce que personnellement, je n'y pensais pas. Parce qu'on l'a vu accueillir la nouvelle première ministre, celle qui vient d'être élue là. Donc, quand vous la voyez, vous ne pensez pas que, à part l'âge, bon, tout le monde sait qu'elle est âgée, mais ce n'était pas envisagé quoi, pour certains. Sa proche famille, peut-être eux, ils savaient quelque chose que le public ne connaît pas. Quoi. On ne sait pas si elle était malade ou elle n'avait pas de signe, quoi.
Le prince Charles va donc lui succéder au trône. Comment est-ce que ce prince est perçu là-bas où vous êtes?
Moi, personnellement, je l'ai rencontré à Edinburgh il y a des années de cela, parce que en dehors de mon travail, je fais de la musique aussi, quoi. Je l'ai rencontré, un gars très courtois, et un gars qui s'est cultivé, quoi. Parce qu'il m'a demandé de ces questions-là. Il a parlé de Oufé-Boigny, il a parlé de Senghor. Et là, je me suis dit, je ne pensais pas que quelqu'un de la famille royale pourrait connaître de Senghor ou bien même de Oufé-Boigny. Et il est très cultivé, quoi. Donc, je pense qu'il fera un bon roi.
Mais il sera peut-être difficile pour lui hein, d'avoir la stature de sa mère, vous ne pensez pas?
Non, mais nul ne peut remplacer la reine. Hein, parce que être au trône pendant 70 ans, c'est pas 20 ans.
Eh bien voilà, c'était Samba Sen, un habitant d'Edinburgh en Écosse. Le reste du monde s'est associé au deuil des Britanniques avec une pluie d'hommages unanime à Nanit Talani.
Minute de silence à l'ONU, tour Eiffel privée de ses lumières, drapeau en berne sur la Maison Blanche mais aussi dans le Sultanat d'Oman, jour de deuil au Brésil, en Jordanie ou à Cuba, les marques de respect se sont multipliées aux quatre coins du globe. Aux États-Unis, le président Joe Biden a salué une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables. Son règne est défini par la grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable, a renchéri l'ex-locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama. L'ancien président Donald Trump a loué une souveraine qui laisse, selon lui, un extraordinaire héritage de paix et de prospérité. À l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a noté la grâce, la dignité et le dévouement d'Elisabeth II. Il n'y a pas de mots pour rendre hommage, même partiellement, à l'importance primordiale de cette reine, à son sens du devoir, à son intégrité morale, à son dévouement et à sa dignité, selon l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Pendant de nombreuses décennies, Elisabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale, a commenté le président russe Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore une perte irréparable. En France, le président Emmanuel Macron dit garder le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle. Elle était aussi une amie remarquable de l'Irlande, selon son président Michael Higgins, mais une présence constante dans la vie des Canadiens qui la chériront toujours, d'après le premier ministre Justin Trudeau. Le roi des Belges Philippe et son épouse ont rendu hommage à une monarque d'exception qui a profondément marqué l'histoire. Le roi d'Espagne, Felipe VI, a même jugé qu'elle avait écrit les chapitres les plus pertinents de l'histoire ces sept dernières décennies. Sa vie et son héritage resteront gravés dans les mémoires à travers le monde, a renchéri le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Merci Nanit, merci également à Timothée Donagmaï, Idriss Fall, Eric Manirakiza, Abdulrahman Dia, Mohamed Humfa, Yacouba Ouedraogo et au professeur Mohamed Modj. Michel Joseph a assuré la réalisation de cette édition spéciale. toujours avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a bénéficié jeudi d'une levée de son contrôle judiciaire. Une nouvelle bien accueillie par ses partisans, nous dit de Nouakchott notre correspondant Mohamed Diop.
Après un an de contrôle judiciaire et d'incarcération, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz retrouve sa liberté. Dans son entourage, on se réjouit de la nouvelle. Mohamed Ould Djibril, un proche collaborateur et ancien ministre de l'ex-président.
Aujourd'hui, les partisans du président Mohamed Ould Abdelaziz se réjouissent de cette décision. Toutefois, notre volonté, c'est de voir que c'est de permettre au président vraiment d'avoir une liberté totale, lui permettant de faire exercer toutes ses libertés, et en particulier la liberté d'exercer la politique dans son pays. Donc, il faudra que les partis politiques soient autorisés, mais aussi nous demandons à ce que les partis existants qu'ils puissent donc exercer la politique en toute liberté.
Mohamed Ould Abdelaziz est poursuivi pour détournement de deniers publics durant son règne de 2009 à 2019. Ses avocats plaident pour que son immunité en tant qu'ex-président soit prise en charge. Maître Talef Reyar Oudou Med Mouloud, avocat de la défense.
Non seulement il bénéficie d'une immunité constitutionnelle, mais il bénéficie également d'une immunité de juridiction. Ça veut dire que même s'il doit être jugé pour ce genre de délit ou de crime, selon la position que l'on a, il doit l'être devant une juridiction spéciale, composée au niveau de l'Assemblée nationale par des membres qui sont désignés dans des conditions qui sont précises, qui sont déterminées par la Constitution. Il ne doit donc pas du tout relever d'une juridiction de droit commun.
L'avocat de l'État, maître Brahim Ould Ebeti, a lui une autre interprétation de cette immunité.
Le président bénéficie d'une protection, d'une immunité lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. Mais lorsqu'il exerce ou accomplit des actes en dehors de la mission du président de la République, eh bien, là, il est justiciable des juridictions ordinaires et doit en répondre. Donc, à ce que je vois, et suivant le développement de la procédure, ses droits ont été bien respectés pour la simple raison qu'il a été souvent entendu ou appelé à être entendu en présence de ses avocats.
Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas le seul dans ce dossier. Il y a aussi des membres de sa famille et certains de ses ex-collaborateurs, dont des anciens ministres et ex-directeurs de Société Nationale. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
En République démocratique du Congo, les populations d'Irumu, à 35 km à l'ouest de Bunia, en Ituri, demandent de l'aide humanitaire pour reprendre leurs activités. Ces populations qui sont retournées dans ce territoire après que l'armée a chassé les miliciens veulent reprendre les travaux champêtres pour se prendre en charge. Les autorités affirment mettre tout en œuvre pour répondre à cet appel. Reportage sur les conditions de vie à Irumu avec notre correspondant Alex Katikatei.
Irumu, 35 km à l'ouest de Bunia. La cité revit depuis quelques mois maintenant. La population y est retournée depuis la fin de l'année passée, après que l'armée ait chassé les miliciens qui occupaient la cité. Assise à même le sol, dans la cour de sa parcelle, Marceline, 70 ans, observe sa petite fille qui prépare le seul repas de la journée. Elle fait partie des retournés d'Irumu. Elle a plus de 10 bouches à nourrir.
Nous n'avons rien à manger. Nous dormons à même le sol. Nous mangeons qu'une fois dans la journée. Les enfants souffrent de faim, mais le calme règne pour le moment.
Le calme qui règne à Irumu a permis l'arrivée de plusieurs déplacés des villages et groupements voisins encore sous insécurité. C'est le cas de Grégoire et sa famille. Ils viennent de Komanda.
Dans notre village, les gens sont en fuite. Ils n'avaient pas la paix. C'était même difficile d'aller au champ. Mais ici, c'est calme. C'est vraiment calme. Mais avant, on ne pouvait pas y trouver des gens.
Une centaine de mètres plus loin, une ONG nationale a regroupé des centaines de retournés ainsi que des déplacés. Elle procède à leur enregistrement en vue d'une aide financière. Gérard est l'un des leaders locaux d'Irumu qui encadre cette opération.
Ils sont venus ici les appuyer, leur donner du réconfort afin qu'ils reprennent leurs travaux champêtres comme le calme est revenu ici. C'est pourquoi on les identifie afin de leur donner une petite somme afin qu'ils se prennent en charge.
À la liste des besoins que présente la population d'Irumu, il y a la question de la scolarité des enfants. L'école secondaire étant payante, il est difficile d'y envoyer les enfants dans ces conditions.
Pas moi de payer l'école secondaire, là, ça c'est un problème de difficulté très beaucoup chez nous ici.
Et l'école primaire, comment ça se passe?
L'école primaire, c'est gratuitement. On a félicité le président Tshisekedi pour cette occasion d'élèves de l'école primaire étudier gratuitement.
La situation de la population d'Irumu est bien connue des autorités locales. Le gouverneur militaire d'Ituri affirme travailler pour apporter une solution à ses préoccupations. Johnny Luboya.
Nous avons déjà balisé le terrain, ils ont fait un plan opérationnel et donc maintenant nous connaissons même les sites. En ce qui concerne Irumu, nous connaissons les sites, nous connaissons le nombre d'hectares, nous connaissons le montant et nous avons déjà envoyé au gouvernement pour que, effectivement, nous ayons ces fonds-là, de sorte à aider toutes ces populations-là. Donc ça, c'est déjà fait.
Selon une ONG locale, plus de 12 000 ménages déclassés et près de 20 000 retournés ont besoin d'aide dans le seul territoire d'Irumu. Alex Katikatayi, Irumu, VOA Afrique.
RDC toujours, une chenille légionnaire s'attaque au plant de maïs, l'un des principaux aliments de la population dans l'est de la République démocratique du Congo. Les agriculteurs se plaignent des dégâts causés par cet insecte ravageur qui réduit leur production agricole d'au moins 60%. Un reportage de notre correspondant sur place, Zanem Neti Zaidi.
Karine Dotumaini, mère de famille et agricultrice dans les territoires des Rutshuru, explique que cette chenille cause des dégâts dans les champs et que depuis son apparition, sa production agricole a diminué.
Lorsque nous cultivons le maïs et que la chenille s'y introduit dans un champ où l'on pouvait récolter 10 sacs, on n'en récolte que 4. C'est ainsi que l'on constate que la chenille nous apporte la famine dans la région. Elle s'attaque souvent à nos semis en période de sécheresse.
Le réseau des ingénieurs agronomes travaille principalement sur les territoires des Rutshuru. L'ingénieur Jado Matesso affirme qu'il s'agit d'une chenille légionnaire d'origine américaine.
La chenille en question, c'est les Spodoptera frugiperda. C'est ça le nom scientifique de la chenille. C'est une chenille légionnaire qui pourrait provenir des régions américaines.
Jimmy Miruo, un jeune agriculteur de Boisa dans le territoire des Rutshuru, est lui aussi victime de la chenille légionnaire.
La chenille attaque le maïs avant l'apparition des panicules et l'attaque se manifeste par le flétrissement et aussi la chenille va provoquer la perturbation des activités photosynthétiques de la plantule. Et là, elle cause beaucoup de dégâts et c'est vraiment grave. Et donc, c'est une alerte que nous lançons aux autorités pour qu'il y ait de la recherche parce qu'il y a des centres de recherche agronomiques. Il doit y avoir de nouvelles variétés. Des variétés qui peuvent résister à l'attaque, des variétés qui peuvent, n'est-ce pas, améliorer la production dans la zone qui est le territoire de Rutshuru.
Pour remédier à cette situation, l'expert Jado Matesso explique que la région a besoin de nouvelles variétés de semences de maïs capables de résister à la chenille.
C'est une alerte que nous lançons aux autorités défenseurs de manière à ce qu'il y ait des recherches, parce qu'il y a des centres de recherche agronomiques. Il faut qu'il y ait des nouvelles variétés, des variétés qui peuvent résister à l'attaque, des variétés qui peuvent, n'est-ce pas, améliorer la production agricole dans la zone qui est le territoire de Rutshuru.
À part le maïs, la chenille légionnaire attaque également le sorgho et le riz. De retour du territoire de Rutshuru, Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro, de Michel Joseph à la mise en onde et de Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.